Début, on avait lancé en fait des petits meet-ups dans un bar. On a commencé à 15 et on était à 200. Puis on s'est dit, OK, on y va, et on lance une vraie conférence. Et avril 2019, on a eu 1700 personnes. Et c'était à Station F à l'époque. Mais nous, on a aujourd'hui, je crois, 30 salariés full-time toute l'année. Du coup, c'est un parti pris qui est vraiment de consolidation
Ouais.
et de gestion de notre asset et d'amélioration.
Alors c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre hein. Quand tu es VC, avoir accès à des top deals en avant-première, enfin des decks en tout cas, c'est un avantage compétitif par rapport aux autres VC parce que ça te permet de faire des offres peut-être plus rapidement.
Faut être rapide, et comme on est tout petit, tu vois, on est deux, c'est facile d'être rapide. Et en même temps, tu vois, quand les startups hésitent entre plusieurs fonds, ils arrivent à mettre ces petites enveloppes parce qu'ils se disent que par rapport à quelqu'un qui va juste donner de l'argent, bah, nous, on peut faire des intros au plus haut niveau dans quasiment toutes les boîtes.
Hello à toutes et à tous, ici Gary Beneza pour le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, j'accueille Michael Amar, cofondateur de l'événement Paris Blockchain Week qui se déroulera à Paris début avril. Salut Michael.
Hello.
Alors Michael, aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours d'entrepreneur et surtout sur la Paris Blockchain Week hein, qui est devenue un événement incontournable dans l'écosystème blockchain. Et on reviendra aussi sur ton fonds Ventures et ton rôle d'investisseur dans certains projets français. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter?
Ouais, bah Michael Lamar, je suis entrepreneur et investisseur. J'ai commencé assez jeune, 21 ans, dans le web. J'ai un peu suivi tous les cycles et aujourd'hui je partage mon temps entre lancer des nouveaux projets from scratch et accompagner de jeunes entrepreneurs.
Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, comment tu as débuté ta carrière professionnelle? Je crois qu'il y avait aussi une carrière outre-Atlantique.
Ouais. Mais very long story short, j'ai drop out school, 21 ans, j'ai commencé à trouver, à découvrir le web et je me suis dit que j'ai tout compris au bout de 3 mois, comme on pense à cet âge-là souvent. Et donc j'ai monté une agence web. En 94, c'était un peu tôt, comme tu peux imaginer. Donc on a pas mal ramé sur du sable. Ça a commencé à bien décoller début 2000. Dans la foulée, j'ai créé un ad network et une agence média. J'ai fusionné les trois et je les ai vendus à une société qui se cotait en France et qui avait un bureau de R&D à Palo Alto, en Californie. Et donc j'ai fait l'accompagnement là-bas quelques mois et j'ai relancé un an après une société là-bas en Silicon Valley en partenariat avec Facebook qui avait déjà lancé un token. Bon, peut-être trop jeune pour t'en rappeler, mais il y avait un grand-père de Libra qui s'appelait les Facebook Credits
Ok.
et qui te permettait en fait de pouvoir jouer aux différents jeux de Zynga, Farmville, etc. avec la currency, le token de Facebook en fait. Et j'avais réussi à négocier une exclusivité. J'étais la seule société au monde. Enfin, on était la seule société au monde qui pouvait offrir des Facebook Credits à part Facebook. Donc voilà, on a touché en 2009 la blockchain et les tokens avant la blockchain et les tokens. C'était une expérience assez sympathique de faire une plateforme d'initiativisation sur du digital goods, digital rewards en fait. Donc j'ai découvert que quand tu donnais à quelqu'un un cadeau instantané, il y avait la valeur perçue aussi qui était très forte parce que c'était le gaming, c'est souvent love to play, head to pay. Et donc, si tu utilises ça comme un gimmick marketing, en fait, tu arrives à attirer les joueurs et à consommer ou à faire d'autres actions marketing. Donc, je reviens en France après 10 ans quasiment. Et là, je me mets full crypto. J'ai lancé le premier accélérateur en Europe sur la blockchain. On a aidé à peu près 60, 70 startups à éclore. À Station F, on avait pris un espace assez sympathique là-bas. On a vraiment tout fait, que ce soit du go-to-market, aider à lever, aider à travailler les white papers, c'était plein de potes ICO. Société qu'on a vendue au bout de 2 ans à une boîte de conseil. Et en parallèle, en confrontant au marché international, j'essayais aussi de draguer les grandes entreprises blockchain Asie aux US. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, la France et l'Europe même n'étaient pas dans leur radar. On parle de 2018. Et c'était très difficile de leur faire croire qu'il y avait un écosystème sur place. Il va falloir comprendre. Et du coup, d'où est venue l'idée de la Paris Blockchain Week?
Alors pour revenir d'ailleurs sur ton expérience avec l'accélérateur blockchain, c'est qu'on était à quelle époque? À peu près 2018, tu l'as
2018.
revendu, ouais,
Ouais.
tu l'as revendu plusieurs millions, est-ce que tu peux divulguer un ordre d'idée?
Là, je ne le divulguerai pas, mais pour une boîte qu'on a montée et revendue en 2 ans, c'était un bel exit. Je pense que c'était le premier exit français dans le domaine de la blockchain.
Il existe toujours d'ailleurs cet accélérateur?
Ça a été fusionné, absorbé par la boîte de conseil qui l'a racheté, qui s'appelle Onyx.
Ok. Alors, passons du coup à la Paris Blockchain Week. Est-ce que tu peux un peu expliquer le contexte?
Ouais. Ben, le contexte, c'est ça. On voulait faire venir vraiment les plus gros acteurs à Paris. On leur disait, bon, on a un bel espace, on a un incubateur, on a besoin de faire des partenariats avec les grosses sociétés existantes, on a besoin que nos startups puissent collaborer avec vous. Donc venez mettre votre headquarter européen, en gros, chez nous, à Station F. Et là, tout le monde se moquait un peu de nous en disant, ouais, la France, c'est sympa pour les vacances, mais pas pour la crypto. Donc faut se remettre dans le mindset de 2018 où il n'y avait pas encore grand-chose, malheureusement, en France. On avait déjà quelques beaux acteurs, mais on n'était pas encore reconnus, en fait, comme place ou écosystème local. Donc, c'était un peu énervant parce qu'on a beaucoup de gens qui nous ont fait la même remarque. On s'est dit, avec mes associés qui avaient créé la boîte Wharton, le market maker Wharton au même moment, qu'il fallait faire quelque chose pour montrer, pas pour expliquer à Madame Paul à quoi sert Bitcoin,
Et
mais
puis sur
vraiment faire
Monsieur le
avancer.
Maire.
Ouais, d'être vraiment B2B, quoi. Essayer de
Ouais.
faire avancer le marché, que ce soit sur les points de régulation, que ce soit sur les points tech, ou de go-to-market et d'adoption. Et c'était vraiment notre vision, et ça a débouché. Au début, on avait lancé, en fait, des petits meet-ups dans la barre. On a commencé à 15 et monté à 200, puis on s'est dit, OK, on y va, et on lance une vraie conférence. Et avril 2019, on a eu 1700 personnes, et c'était à sa Station F à l'époque.
Alors pour redonner le contexte, à ce moment-là, dans plein bear market, c'est pas le bear market qu'on a connu lors du dernier bear market là, qui s'est terminé, mais on était sur quelque chose de beaucoup plus désertique. Comment ça a été pour organiser ce premier événement, pour attirer des premiers sponsors?
Ouais, ça c'est difficile. Les secrets de sauce, c'est un peu difficile, mais je pense que ce qui nous a aidé, c'est qu'on a eu un positionnement à la fois d'être agnostique, et je pense qu'il n'y avait jamais eu une conférence agnostique en France, et même pas vraiment beaucoup en Europe. C'était souvent une techno qui prenait la main et tout tournait autour de la techno. Et notre positionnement d'être la place où toutes les technos viennent se présenter sur leurs plus beaux atours, ça a été, je pense, fort. Et deuxièmement, c'est le réseau de la Silicon Valley qui a pas mal aidé d'avoir les speakers internationaux dès le début, qui étaient curieux en fait, qui nous disaient, mais vraiment, il y a quelque chose à faire. Et bien, viens, viens montrer, on t'organise des rendez-vous pendant que tu es là. Il y a le gouvernement qui a joué le jeu. Donc, on avait ouvert la Paris Blockchain Week à l'époque, la veille, avec Bercy. Bruno Le Maire avait fait un discours, il avait reçu quelques centaines de personnes, on avait apporté nos speakers. Et donc, on était une place welcoming à ce moment-là. Donc, ça intriguait pas mal aux acteurs qui ont eu confiance, qui se sont dit, ça se tente de tenter une conf internationale en Europe, on va venir, on va voir. Donc on a eu le troisième point un peu de secret sauce, c'est que il fallait qu'on s'assure que dès la première édition, nos speakers soient contents et nos sponsors soient contents, sinon c'est pas viable. Et pour ça, en fait, comme il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de B2C aussi dans la crypto à ce moment-là, il faut s'assurer que les B2B soient présents. Donc, on a un positionnement très premium dans notre approche, que ce soit sur l'offre des petits détails, hein, mais sur toute l'expérience, que ce soit de la nourriture à l'accueil. Et donc, d'être vraiment dans du premium dans notre approche. Et je pense que c'est les trois agnostiques international premium qui nous ont donné l'élan et la réussite.
Et dès le premier, enfin, en tout cas pour cette première édition, est-ce que vous avez été dans les frais? Vous avez mis de l'argent?
Bon,
Vous étiez à perte?
du gain peut-être un tout petit peu d'argent. Sans
Ok.
compter, on prenait pas de salaire ou quoi que ce soit, donc on était flat.
Ok. Et c'est quoi d'ailleurs à ce moment-là le contexte des événements dans l'écosystème blockchain? C'était quoi les autres événements un peu phares qui existaient déjà, que ce soit en France ou en Europe ou dans le
Non, il n'y
monde?
avait que THC, je crois que ça s'appelait pas comme ça à l'époque, je m'en rappelle plus, qui était présent, et même en Europe, j'ai du mal à me rappeler. Il y avait beaucoup de petits events.
Ouais, il
Je
n'y
me
a pas
rappelle
trop
en
d'événements.
2019 comme ça. Il y en a qui ont disparu depuis. Je suis pas sûr, en fait.
Parce que là, en 2024, en tout cas, il y a plein d'événements qui existent, bon, soit avec effectivement comme vous, avec un positionnement assez agnostique, soit sur un positionnement très spécifique. Comment d'ailleurs vous avez réussi à grossir? Ça a été quoi, par exemple, le tournoi avec la deuxième, troisième édition? À quel point vous avez grossi entre les différentes éditions
La deuxième édition, c'était un mois avant le lockdown
Ah,
Covid.
ouais, c'est vrai.
Donc, à même pas, je crois, 3 semaines près, on change et on doit le faire en catastrophe en ligne. Et en fait, on s'est pas mal débrouillé. Alors, ça nous a demandé plus de ressources que la version physique, ce qui est assez incroyable. On a eu plus de staff. Mais on s'est bien débrouillé. On était les premiers en France, voire en Europe, à utiliser Opin, qui était une bonne solution pour les conférences virtuelles. Et on a des gens qui sont restés connectés 8 heures en moyenne sur 2 jours. Et ça, c'est vraiment pas mal comme stat. Et on a eu des super bons speakers, même sur l'édition en ligne. Et on avait un outil de speed dating qui a bien marché. Et du coup, on a limité la casse. Et on a un peu renforcé notre image de marque assez premium grâce à cet événement quand même en ligne. Les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais je crois que c'est 3 000-4 000 personnes.
Ok.
Ensuite, 2021, bah, pour être honnête, on a failli fermer la boîte parce qu'on ne voyait pas la fin du Covid, on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait sortir. On avait mis quelques personnes en chômage partiel, laissé partir d'autres, zéro visibilité. Puis quand même, hein, peut-être février, mars, on se dit, bon, ça va bien s'arrêter un jour, on y croit, et on n'a rien enclenché, en fait. Et là, on a scalé, donc il y a un CEO qui s'appelle Emmanuel Fenet qui nous a rejoint à temps plein, qui a commencé à construire une équipe. Et on a fait une super édition en avril 2022.
Parce qu'en 2021, vous avez fait une édition quand même, ou il n'y a pas eu
Rien.
d'édition? Rien, d'accord.
2021, d'abord, on était à 2 doigts de fermer, puis on s'est dit, OK, on recrute une team. Et on prépare pour faire un gros truc dès le Covid s'ouvre. Et en fait, c'était avril. Et on a eu une chance. Je pense qu'on était le premier gros événement post-Covid mondial sur la blockchain. Et du coup, on a eu. On pensait que la salle qu'on a prise au Palais Brongniart était trop grande. 2 semaines avant, on avait prévu de la rapetisser avec des draps. Et en fait, c'était trop petit. Les gens ont dû manger dehors. C'était assez dingue. On a eu 6 500 personnes, en fait. Donc, pour une deuxième édition physique, c'était déjà pas mal. Et puis, on a continué à professionnaliser la boîte, à scaler. Et l'année dernière, on est 8 500 personnes sur la semaine. Et c'est devenu une vraie week avec énormément d'événements. Certains qu'on opère nous-mêmes, certains en partenariat avec des partenaires, et certains complètement décentralisés, faits par les communautés et l'écosystème autour de la blockchain et crypto Web3.
Okay, donc une belle croissance maintenant. D'ailleurs, vous attendez combien de visiteurs pour cette édition?
Sur la semaine, on espère plus de 10 000 personnes.
Ok. Oui, une question que je me posais d'ailleurs aujourd'hui quand tu organises un événement. À quel point les side events peuvent servir ou desservir ton événement? Parce que finalement, les side events, j'ai l'impression, donc ça a été par exemple le cas à NFT Paris, il y avait plein de gens qui allaient à des side events, mais qui sont même pas allés à l'event principal, donc à NFT Paris en fait.
Ouais, c'est une question que tous les acteurs sur le salon se posent. En fait, tu as plusieurs aspects. S'il y a 150 side events dans Paris, bon, ils ont lieu parce que tu as organisé ce meeting où tout le monde revient. Je pense que c'est bien parce que, déjà pour Paris, c'est bien. Ça en fait un hub hyper important. Tout le monde va promouvoir son side event, donc on a un reach cumulé entre nous et les 150 organisateurs, voire en général 2 fois 2 ou 3, donc les centaines d'organisateurs, donc il y a quand même une sorte de on prend l'espace mental des gens pendant une semaine sur Paris, ça ancre, et je pense que c'est important. Financièrement, c'est vrai que si on a un sponsor qui met, je sais pas, 15 000 euros chez nous, mais 400 000 euros dans une soirée, qu'il arrive à organiser parce qu'on a fait tout le travail, c'est sûr que tu te dis, mince, j'aurais préféré avoir un peu plus que les 15 000 euros. Mais je dirais, c'est le jeu, c'est à nous de rester pertinents et percutants et qu'il y ait de la valeur pendant la conférence. Et ça, la valeur, c'est les speakers. Donc on arrive, non, plus surtout si tu es français, tu vois, tu n'as pas besoin de prendre le train ou l'avion, en tout cas pas loin, pour avoir les meilleurs speakers au monde, mais aussi avoir un lieu de rencontre sur place où tu es assuré de rencontrer en étant présent dans l'espace du carrousel. Tu peux te blinder de meeting du matin au soir, tout le monde va être là-bas à un moment donné. Donc il faut qu'on arrive à garder cette concentration par les opportunités de networking qu'on donne, notamment l'outil qu'on fournit, les intros qu'on peut faire, le fait que l'espace d'exposition soit très riche, je sais pas, plusieurs centaines de stands. Et du coup, bah, tu as envie de découvrir, tu as envie de parler avec les gens qui sont présents sur ces stands, d'entendre des pitchs. De trouver ton fournisseur de custody ou autre. Et donc, il faut qu'il y ait de la valeur à l'intérieur. Et on l'agrémente. Par exemple, l'année dernière, on avait testé une Investors Day, journée investisseur, en dehors des 3 jours de conférence au Westin. Ça a super bien marché. Bon, du coup, cette année, on le prend et on fait complètement partie du programme. Et on a, je pense, la plus grosse startup competition, quel que soit le domaine d'activité, qui ait jamais eu lieu. Parce qu'on a plus de 10 millions en prix qui vont être distribués à des startups, ce qui est assez dingue. dans un marché qui est plus en bear market, mais qui est quand même pas au top de sa forme. Je parle en termes d'écosystème, mais pas que du prix du Bitcoin.
Ouais, moi je pense qu'un petit ticket là, les startups diront pas non quoi.
Ouais, donc l'idée, c'est ça, c'est que tu dois être relevant par ton format, par ton contenu, par le fait que tout le monde va vouloir être là, et des animations que tu peux faire. Voilà, faut que tu restes un hub. Et après, nous, on a une offre où on aide, parce qu'en fait, si toi, tu fais un side event, en fait, tu vas être en compétition avec 20 autres side events. Donc, il y en a qui viennent nous voir, qu'on fasse un partenariat. Et en fait, on les met en avant de façon officielle. On a un petit peu de revenu sharing dessus. Et ça permet qu'on puisse taper dans notre liste de VIP et les convier à l'événement. Beaucoup d'organisateurs de salon font ça.
Ouais, complètement. C'est win-win, hein, entre guillemets.
Ouais.
Et bah, d'ailleurs, c'est intéressant, en parlant de la startup competition, donc il y a 10 millions, tu l'as dit, de prize money. D'où vient cet argent? Qui investit dedans
Alors, de partout. Tu as soit des gros fournisseurs de cloud qui du crédit garanti. Un des deux plus gros mondiaux l'année dernière, une seule startup, ils ont donné 500 000 euros quand même. Donc ça, c'est pas mal. Après, tu as les VC qui ont du funding. Il y en a qui sont soft commit, il y en a qui sont hard commit. Tu as des grants, donc tu as des subventions qui viennent des fondations, par exemple. Tu as des accélérateurs aussi qui vont donner du mentorship gratuit ou un spot garanti dans leur batch. Tu peux avoir même du hardware garanti. On vous invite à regarder sur le site de la Startup Competition. Il y a plus de 30 partenaires qui participent aux prix qui sont distribués.
Et donc, c'est quoi la répartition? Par exemple, c'est 1 million pour le premier, donc que ce soit en bénéfices, c'est services.
Non, alors là, c'est plus le sponsor partenaire qui est dans un pool des 100 vainqueurs. En fait, on a, je sais pas, après 800 plus d'applicants. Il y a une présélection sur 100. Et dans le top 100, je crois, je suis désolé, hein, je n'ai pas cette partie opérationnelle, mais là, les sponsors peuvent dire à qui ils veulent attribuer les gains.
Ok.
Et bien sûr, le top 10, il y a un top 10 qui va être sélectionné, qui viendra pitcher le jour J. Donc le 11 avril, aura la plus grosse partie des lots.
Comment tu positionnes toi aujourd'hui la Paris Blockchain Week par rapport aux autres événements? Moi, l'image que j'en ai, c'est que c'est un des plus gros événements blockchain au monde. Est-ce que c'est le cas? J'imagine que c'est comme ça que tu
Ouais,
positionnes.
on est trois en fait à avoir un marché qui sont token plus sur l'Asie, même si là ils ouvrent Dubaï. Donc token 2049 et Consensus qui est aux US mais qui va bouger au Canada l'année prochaine, et nous pour l'Europe. Donc on est, voilà, les trois. Notre différence, je dirais, ben, token, ils sont plus token, c'est asiatique, c'est plus crypto. Je pense que Consensus, c'est le média plus établi, comme ils appartiennent à CoinDesk. C'est très drivé par le content. Il y a tous les gros acteurs qui sont présents également. Je pense que notre différence, on nous a copié, mais cette partie startup, je pense qu'on a le plus beau programme. Et aussi, on a plus de corpos. En fait, notre vision et ma vision perso de nos investissements, c'est que c'est super, mais ça fait quoi? Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine, et en fait, je trouve que ça reste encore assez incestueux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand tu vas dans un groupe crypto, tu vois que les gens de la crypto. Quand tu vas dans un groupe finance, tu vois que les gens de la finance. Même si un topic crypto ou une demi-journée crypto, t'auras pas les crypto guys qui vont venir. Et je pense que pour atteindre le mass market adoption, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on onboarde les corporates, les entreprises, le B2B2C, les marques, etc. Et donc, nous, on fait un bout de gros efforts pour un peu réconcilier, avoir la finance traditionnelle. On a les JP Morgan et Goldman Sachs, Morgan Stanley qui viennent. Et on a aussi les Chanel ou Mercedes qui sont là, et les grandes entreprises industrielles également. Donc, en fait, on est peut-être ceux qui essaient de rapprocher plus le Web 2, les marques, le Web 3, enfin, avec le Web 3. Et la finance traditionnelle également. Voilà,
Il y a
ça. Financier.
combien de sponsors? Pardon. Ça marche. Combien de sponsors participent à l'événement?
Je sais pas, je fais exactement 150 et 200 sponsors.
Ok. Et alors, c'est un énorme événement à organiser. Je me demandais, c'est intéressant d'aller dans les coulisses de l'organisation. C'est quoi un peu les grands départements, entre guillemets, comment vous y prenez? Je crois que j'avais vu passer l'information que, par exemple, un événement comme NFT Paris, déléguait, on va dire, la partie opérationnel slash organisation de l'événement à une agence. Je crois que c'était Unexpected, l'agence. Est-ce que vous aussi c'est le même modèle, j'imagine?
Ben non, pas du tout. Nous, on a pris un parti pris différent. En fait, pour organiser un événement de notre taille et très B2B, où tu as quand même des exigences qui sont hyper importantes de la part des sponsors sur la couleur du tapis, parce que l'éclairage, le stand, etc. En fait, il faut 9 mois pour faire un événement de cette taille. Après, si tu bosses avec des free sur 9 mois, en fait, tu sais jamais s'ils sont dispo au moment où tu les veux. C'est-à-dire que quand tu as une super team, même si pendant 2 3 mois ils respirent un peu mieux, tu vois, ils n'ont pas besoin d'être de bosser comme des dingues. Le fait de savoir que ils sont là, ils sont bons, ils tiennent le feu le jour J, je pense que c'est un atout incroyable. Alors oui, ça, tu optimises pas tes coûts, mais nous on a aujourd'hui, je crois, 30 salariés full time toute l'année. Du coup, c'est un parti pris qui est vraiment de consolidation et de gestion de notre asset et d'amélioration. On a beaucoup scalé. Première édition, on était 6 en part-time. On est passé à peut-être 4 full-time à la deuxième et la 30.
Ok, ouais,
Et
effectivement.
comment, tu m'as posé la question tout à l'heure de comment ça s'est parti. En fait, tu as plusieurs teams. Donc, tu as,
Ouais.
bon, tu as un peu de management, mais tu as forcément une équipe contenu, à la fois sur nous, produire du contenu, animer le contenu, recevoir de nos différents partenaires, et l'agenda, le recrutement des speakers, agenda, organisation de l'agenda, qui parle de quoi, à quelle heure, à quel moment, quel modérateur, quel MC, etc. Donc il y a tout ce travail-là. Tu as l'équipe marketing qui joue à la fois sur la marque, qui joue sur le ticketing, qui joue sur le SEO, donc 360 marketing, je veux dire. Tu as forcément l'équipe commerciale, donc pure sponsoring, mais aussi de vendre des tickets à des grands groupes qui vont prendre plus que 10, par exemple. Donc, tu as pure sponsoring, on va dire package de ticketing, donc l'équipe sales. Tu as une équipe customer success qui est aussi très importante parce qu'il faut s'assurer de délivrer de A à Z. On a donc fonction finance, qui c'est que j'oublie? Sales,
C'est de la partie,
personnel, tout ce qui est bah, logistique, floor
voilà.
plan, management de tous les fournisseurs, de tout ce qui va être physique en fait, négociation des prix avec les fournisseurs, trouver les salles pour les side events, etc.
Ouais, ça fait une belle équipe, ça monte vite. Alors, c'est vraiment intéressant cette vision, entre guillemets, ouais, d'internaliser, on va dire, d'avoir tout le monde en longue durée. Alors, la question qui se pose, c'est peut-être pour amortir les coûts, parce que je me dis, le lendemain de la Paris Blockchain Week, donc voilà, on va dire le 15 avril, est-ce que vous avez déjà organisé celle de 2025? Ou pour justement, entre guillemets, rationaliser les coûts, vous réfléchissez à créer un autre événement qui est par exemple pour que ce soit tous les 6 mois en fait qu'un événement et pour, entre guillemets, optimiser la structure de coûts. Alors j'ai vu d'ailleurs que tu as créé un salon qui s'appelle Raise. Alors peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être que justement c'est lié à ça.
Non, mais en fait, c'est un très bon point. On aurait la raison pour laquelle on montait à 30 personnes aussi, et pas que en personne, on a scalé aussi sur nos outils et notre organisation, c'est pour pouvoir faire plus de choses. Et pas de vivre qu'une semaine par an, en fait. Et ce plus de choses, enfin, se matérialise avec une première édition d'une conférence qui n'a rien à voir, qui est opérée par la même société, mais qui s'appelle Raise, le Raise Summit, qui a lieu le 8 avril au Westin Vendôme. Et qui est focusé sur le Gen AI, plus particulièrement sur les corporates, même s'il y a une vraie partie builders, Mistral qui gère le hackathon. Et en fait, notre vision, c'est qu'on a regardé pas mal de domaines et on s'est rendu compte que très étonnamment, alors que l'AI, c'est quand même top topic en ce moment, sur notre playbook Paris Blockchain Week, très premium, très international, il n'y a pas grand monde. C'est souvent, et agnostique, pardon, il y a très force. Souvent, tu as une grosse boîte tech qui va faire ça qu'on fait AI, mais tu n'as pas vraiment trop international agnostique. Du coup, on s'est dit, bah, y a une opportunité, il faut qu'on soit bon. On s'est associé avec 2 jeunes qui viennent de l'AI et comprennent particulièrement le marché. Et Henri et Adrien, et on a décidé qu'il y a 2 mois seulement, le lancement de Raise. Là, on fait un warm-up, on profite du fait qu'on fasse venir 10 000 personnes à Paris cette semaine-là, dans lequel il y a beaucoup de CTO, CIO, qui regarde forcément l'AI. Et du coup, on a un super line-up, 1 500 personnes qui sont attendues. Et comme ça se passe très bien, on va annoncer bientôt une date pour faire une très grosse conférence du type Paris Blockchain Week sur l'AI l'année prochaine.
Ok.
Donc, j'ai pas encore la date annoncée, mais ça va pas tarder. Et du coup, l'équipe peut assumer les 2 conférences. On va peut-être, voilà, quelques personnes à aller chercher pour compléter l'équipe, mais aura la capacité de bien gérer deux grosses conférences pour 2025. C'est un peu l'optique.
Ok. Et d'ailleurs, la conférence donc arrive avec cette première édition de Raise. Enfin, j'imagine que ça a été assez court terme à organiser, enfin assez rapide.
Écoute, c'est marrant, mais on a fait pas. Je suis allé dans pas mal de rendez-vous pour me rendre compte un peu si notre positionnement, tu vois, Gen AI for Corporate, etc., c'était bon. Et en fait, on a eu un écho assez incroyable des plus grosses boîtes tech. Seul sujet pour la partie financière, c'est que, tu vois, en crypto, on arrive à faire des deals sur Telegram, quatre échanges et c'est closé. Là, c'est pas la même chose. Là, il faut remettre la cravate et la
Ouais.
sacoche parce que c'est des plus grosses boîtes corpo qui ont des process, des budgets annuels, etc. Du coup, en décédant 2 mois avant, t'as un change qui est un peu plus compliqué, mais on s'en sort plutôt bien. Je pense qu'il y a une vraie volonté de faire quelque chose de gros l'année prochaine, de la part de nos partenaires.
Ok. Ah, génial, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une place à prendre. C'est vrai que autant maintenant sur la crypto blockchain, il y a plein d'événements. C'est vrai que sur l'IA, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'IA, hein, mais c'est vrai que je n'ai pas vu passer de gros événements encore. C'est intéressant. D'ailleurs, je me demandais, c'est quoi le business model en tant qu'organisateur d'événements? C'est-à-dire que bien sûr, tu as la vente, on va dire, de stands. C'est un peu le jeu qui veut ça, mais il y a aussi donc la vente de tickets. Mais est-ce qu'il y a d'autres.
Bon,
Enfin.
c'est 70-30, c'est ça,
Ouais.
70% en gros. Ouais, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, en tout cas chez nous, c'est à peu près 70-30.
Ok, 70-30, intéressant. Donc 70 les booths, enfin
Sponsor,
les
ouais.
sponsors, et 30%. D'ailleurs, un sponsor, donc il va acheter quoi? Il va acheter donc du stand, de la visibilité.
T'as de tout, ouais, t'as la visibilité, tu peux acheter le badge, collection printemps-été, automne-hiver, t'as vraiment un
Ouais.
catalogue d'offres, tu peux acheter des... le main stage, la décoration du main stage, tu peux acheter un meeting room pour tes clients un peu au calme. Donc on a une offre assez robuste, mais qui est assez classique dans les conférences.
Alors la question que je me posais aussi, c'est comment tu détermines le pricing de chaque item, entre guillemets. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est un vrai sujet, parce que là, il n'y a pas de marché, entre guillemets, c'est l'offre et la demande, c'est un peu, là, tu es sur quelque chose de très spécifique. Comment tu sais si le sponsoring de la gourde, de la Paris Blockchain Week, plutôt ça va être 5 000 euros ou 15 000, comment tu arrives un peu à définir ce pricing, ou est-ce que c'est un modèle d'enchère
Alors, c'est pas un modèle d'enchère, mais c'est pas une mauvaise idée, d'ailleurs. Tu me donnes une bonne idée. On va dire, c'est en fonction aussi de l'impact que ça a. Par exemple, si on a besoin, si en fait, pour l'expérience de la conférence, c'est bien qu'il y ait, je dis une bêtise, une charging station pour le téléphone, ben, c'est un truc qui est bien. Nous, on voit le branding. On n'a pas besoin de vendre très très cher, on veut que ça couvre les coûts, qu'on va peut-être marge un petit peu, mais l'intérêt c'est que c'est utile pour l'expérience utilisateur, tu vois. Après, tu as des choses où tu es limité, notamment le square meter, même si on a pris tous les halls du carrousel du Louvre, bah, t'as un nombre de mètres carrés qui est fini. Donc là, effectivement, il faut que tu mettes un pricing qui correspond à ce que tu penses que tu peux vendre, tu le divises par le nombre de mètres carrés disponibles dans ton floor plan. Et là, tu vas en déduire un prix. Et en général, tu packages avec d'autres choses pour pas vendre que du mètre carré non plus. Et donc, ça va avec du branding. Donc, je dirais pas que c'est... Ouais, tu essaies d'avoir une cohérence aussi d'année en année par rapport à tes concurrents. Tu prends un peu les infos de toutes parts pour te faire ta religion et ton offre.
Et c'est qui vos plus gros sponsors pour 2024?
Écoute, nos gros sponsors, c'est Stellar, c'est Circle... C'est Hedera, c'est Swing, c'est Crypto.com, AWS, les gros acteurs.
Ok, donc ouais, fondation, exchange, etc. Ça marche. Et toi, c'est quoi ton rôle aujourd'hui au sein de la Paris Blockchain Week?
Alors moi, je pense que j'ai un rôle plutôt sympathique. Sur le papier, je suis chairman, mais en fait, mon rôle, c'est d'être un peu le lobbyiste. Je fais beaucoup de conférences dans le monde entier, où je vais là-bas, je prêche la bonne parole pour Paris Blockchain Week, où je vais trouver des speakers, on n'arrive pas forcément à joindre, ou alors tu crées une relation plus facilement, c'est 3 fois que tu les vois, c'est plus facile en personne à recruter, ou j'influence, ou ça donne des idées de partenariat aussi, que ce soit avec des médias, ou de partenaires variés, donc je suis là pour influencer et promouvoir la Paris Blockchain Week.
Alors j'imagine aussi avec ton rôle, tu es vraiment dans les backstage de l'événement, donc tu peux vraiment observer les mutations, on va dire, d'année en année. C'est quoi un peu les grandes ouais, mutations que tu as observées depuis la première édition jusqu'à maintenant?
Wow. C'est comme eu des cycles, quoi. Tu as eu des cycles, les périodes où c'était full token, tout le monde parle que ça. Dans l'ascenseur, ils veulent leur token.
Ouais.
T'as vu des éditions avec ça. T'as vu des éditions dire non, mais non, le marché est mûr, on va être que enterprise. Et là, t'as beaucoup plus d'entreprises qui se posent la question. T'as eu la vague NFT où là, c'est les marques qui se sont dit, ah, enfin, un truc qu'on comprend en crypto, donc on va l'utiliser nous. Là, on se dit, OK, comment on arrive au B2B2C? Parce que les NFT, ça a plus trop marché. Donc, c'est quoi le next move? Et on parle de real world acceptation. Et donc, ça, c'est un des gros topics. En fait, il faut suivre les grandes tendances de fond. Tu les vois arriver quand même 3, 4, 5 mois à l'avance en général. Puis si je
Ok.
devais en sortir une qu'on voit beaucoup, ne serait-ce que si dans les startups qui appliquent, à part la partie pure infra et tech, je pense que c'est tout ce qui est tokenisation d'assets et un gros sujet.
D'ailleurs, en parlant de tokenisation d'assets, c'est vrai que une question que je me posais, c'est que il y a de plus en plus d'événements blockchain dans le monde, et c'est vrai que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'il n'y a pas d'événement dédié à la partie DeFi encore. Enfin, gros événement.
Non, mais peut-être que ETH Denver, il doit avoir beaucoup de DeFi.
Ok.
Mais c'est absolument que sur Ethereum. Non. Mais tu sais, si tu veux faire un gros événement, tu as quand même ta logique de coût. Même quand tu es hyper générique comme nous, tu dois quand même aller te battre pour chaque euro. Et si tu réduis à un sous-secteur, tu fais un gros truc, 150 stands que sur la DeFi, je ne suis pas sûr que le marché soit mieux pour ça. Donc, sur une conférence à 1500-2000 personnes, peut-être, au-dessus, je pense que c'est difficile aujourd'hui.
Ouais, du coup, bah, ça me fait penser à NFT Paris, où, alors moi, tu vois, j'avais pas été l'année dernière. C'est vrai que cette année, apparemment, il y avait moins de monde que l'année précédente. C'est intéressant parce que, tu vois, il y avait peut-être plus de builders et moins de personnes qui étaient attirées par la hype des NFT. Effectivement, c'est peut-être que bah, l'événement a subi un peu, entre guillemets, le fait que ce positionnement un peu trop niche par rapport à un événement plus généraliste.
Et tu dois être, faut être agile, donc pas fait d'être agile. L'année dernière, en fait, on avait une journée dédiée. D'ailleurs, les 2 dernières années, on avait une journée dédiée au NFT, qui était la première journée de la conférence, avec une marque séparée, etc. Et en fait, on l'a kill juste après, quand on s'est rendu compte que le marché n'était pas prêt de décoller. Alors, on garde le track, il y a toujours des sujets intéressants sur les NFT, il y a les ordinals, il y a des plays métaverses qui sont intéressants avec le lien VR, etc. Mais ça devient un track dans la conférence générique, et plus une journée complètement dédiée. Donc, en fait, tu dois être assez agile.
Je te propose de passer maintenant à ton fonds Ventures, sans transition. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Donc c'est un fonds VC, hein.
Ouais, c'est un fonds VC, principalement avec des gens que je connais bien, qui viennent du Web2, qui ont participé. C'est un tout petit fonds. On fait des investissements entre 50 et 200K. Si je me trompe pas, on a fait 7. On a la chance, en fait, j'ai la chance avec Nathaniel d'opérer la Startup Competition de Paris Blockchain Week et donc d'être dans les premiers à voir les decks des startups qui appliquent. Et du coup, l'année dernière, je crois que 6 sur 7 de nos investissements ont été sur les winners, en tout cas dans le top 20 des vainqueurs de la Startup Competition. Donc mon positionnement sur le fond, c'est plutôt B2B2C, toujours dans ce mindset. Ça se retrace avec un Xverse qui était gagnant l'année dernière.
Qui fait quoi d'ailleurs?
Alors c'est le MetaMask pour Bitcoin. En fait, c'est le number one wallet Bitcoin. Et avec le ride Ordinals, ça se passe plutôt très bien pour eux. Dans les gens que tu dois connaître sur les Français, parce que le fonds investit partout. On investit aux US, en Asie, en Israël, partout en Europe. On a Bubble Maps, Playmakers, Narva, Brink. Donc certains de ces noms-là sont. Tu les connais.
Ouais, alors, effectivement, j'avais interviewé sur ma chaîne Nicolas de Bubble Maps. Tout à fait. Et alors, c'est intéressant, donc des tickets entre 50 et 200. Donc, a priori, vous avez investi à peu près 1 million, j'imagine, depuis le début lancement du fonds au maximum.
Ouais, un petit peu moins. Un petit peu moins. Et là, on va sûrement faire une dizaine d'investissements juste avec la Startup Competition.
Ok.
Parce qu'en fait, on a des partenariats avec pas mal de VC qui nous donnent aussi leurs analyses de ce deal flow. Et du coup, les startups aiment bien travailler avec nous parce qu'elles voient que le reach qu'on a avec Paris Blockchain Week, on peut les introduire à n'importe quel autre fonds. On peut aussi leur donner des conseils marketing, voire les aider en marketing de façon assez concrète. Et donc, pas comme un VC classique. On est vraiment dans le domaine et grâce à la conf et les speakers, on a accès un peu à tout le marché.
Et alors, c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Quand tu es VC, avoir accès à des top deals en avant-première, enfin des decks en tout cas, c'est un avantage compétitif par rapport aux autres VC parce que ça te permet de faire des offres peut-être plus rapidement. C'est un peu comme de l'immobilier, hein, finalement. Si tu as accès aux meilleurs biens du marché, bah, tout de suite, c'est un avantage compétitif par rapport aux autres agents.
Oui, il faut être rapide, et comme on est tout petit, tu vois, on est deux, c'est facile d'être rapide. Et en même temps, tu vois, quand les startups hésitent entre plusieurs fonds, ils arrivent à mettre ces petites enveloppes parce qu'ils se disent que par rapport à quelqu'un qui va juste donner de l'argent, bah, nous, on peut faire des intros au plus haut niveau dans quasiment toutes les boîtes de l'écosystème. Du coup, on a un avantage compétitif sur l'apport investisseur.
Et d'ailleurs, donc, vous, après, c'est donc entre 50 et 200 000 euros, mais il y a, ouais, tu disais, il y a du conseil, c'est quoi? C'est de l'introduction, c'est la mise en relation, c'est également
Non,
du.
facture aucun conseil, c'est
Non,
offert.
pardon, pas facturé, mais je veux dire, ce que vous proposez en plus de l'argent,
Oui, c'est
gratuitement, bien
pour
sûr.
faire une intro, c'est pour dire, toi, t'es, je sais pas, je donne un exemple, il y a Xverse, donc ils sont en écosystème Bitcoin, craqué, je connais bien David Marcus, qui est un speaker, qui lance une très belle boîte sur Lightning, qui connaît très bien l'écosystème, et puis on les met en relation, et ils vont sûrement s'intégrer l'un l'autre. Voilà, donc ça peut être que pour du BD, ou ça peut être bah, l'accès au VC, comme ils sont quasiment tous partenaires, c'est du domaine de la startup competition, bah, on les met en rapport en disant, bah, voilà, on les suit depuis un an, on a mis un ticket, je pense que ça vaut le coup que vous regardiez pour le round 2.
Ok, intéressant. Donc ouais, cette partie aussi introduction à des VC. Est-ce qu'il y a aussi, vous êtes au board de ces boîtes-là?
Ouais, il y en a 2 sur les 7, on est au board. On n'oblige pas. S'ils pensent qu'on apporte de la valeur. Alors souvent, comme l'autre avantage qu'on a par rapport à pas mal de fonds, c'est que j'ai un background d'entrepreneur. Je suis d'abord entrepreneur, puis un peu investisseur après. Et du coup, en early stage, pour les startups, s'ils ont 2-3 VC classiques au board, ils aiment bien avoir un entrepreneur qui les comprend un peu mieux, voilà, qui parle un peu le même langage.
Ok. Et c'est quoi d'ailleurs vos critères de sélection? Donc, il y a la thèse d'investissement dont tu parlais, hein, B2B, B2C, mais est-ce qu'il y a des, on va dire, des signaux, des red flags, des green flags qui font que.
Très classique la team. Et donc, red flag, ça va être si c'est qu'un seul entrepreneur, bien sûr. Ça va être si c'est un sujet particulièrement technique ou d'un domaine en particulier qui a aucune expertise dans ce domaine-là. C'est compliqué. Mais la team.
La team. Et en général, quand vous investissez dans un projet, c'est dans le cadre d'une levée plus importante. Et donc, il y a un fonds qui va dire un fonds
Ouais,
leader.
c'est du
Vous.
pre-seed seed, hein.
Ouais,
En
ok.
général, quand même, un fonds qui a mis, t'as au moins un fonds. Et après, tu peux avoir des, enfin, quand j'ai un fonds, un plus gros fonds, et après, tu peux avoir 4-5 fonds de la taille qui vont suivre.
D'ailleurs,
Et liquide.
les fonds que vous investissez, ils proviennent d'où? C'est. À part
C'est,
personnel,
comme
c'est
je te
levé.
disais, en fait, c'est principalement des individus et quelques family office que je connais de mes expériences passées qui ont voilà ont voulu tester le Web3 sans s'y mettre directement en ayant un peu peur parce qu'ils connaissent pas et comme il y a une relation de confiance ils se sont dit bah non seulement on investit chez toi pour avoir été un peu exposé au Web3 mais en même temps tu nous fais un peu de feedback de ce qui se passe sur le marché et puis s'il y a un truc qui est intéressant dans le domaine d'activité si tu peux nous flag enfin, c'est un investissement direct voilà c'est un peu le modus operandi que j'ai avec eux.
Est-ce que l'année 2023, qui n'a pas été une année forcément rayonnante pour le monde du VC, ça a impacté, j'imagine, vos investissements?
Écoute, sur les 7 boîtes, on a 3 qui sont en train de faire un tour avec une valo bien plus belle que celle dans laquelle on est entré.
Ok.
Du coup, c'est pas encore closé, donc on reste dans du conditionnel, mais ça se passe bien. On n'a pas une seule qui soit morte et je suis en plus juste humainement content parce que le marché est difficile et je les vois se battre, réajuster, pivoter, etc. Donc on est plutôt très content de tous nos investissements.
Ok, ça marche. Et donc là, pour 2024, est-ce que vous avez des. Par rapport au marché, est-ce que tu es plutôt optimiste?
Bah en fait, alors, Nat a revu, j'ai pas eu le temps de revoir tous les decks. Ce competition, il est assez étonné par la qualité, en fait, des dossiers qui sont là. En moyenne, ils sont beaucoup plus qualifiés que l'année dernière.
Ok. D'ailleurs, tu disais qu'il y avait combien de
Je crois
dossiers?
il doit y avoir 800 dossiers, un
Ah
truc
oui.
comme ça. Un peu la même chose que l'année dernière. Sauf que, en fait, si tu réfléchis, c'est des boîtes qui ont 6 mois, 9 mois, et te lancer dans le domaine il y a 9 mois, déjà, t'es pas un opportuniste, en fait, tu vois. T'enlèves les opportunistes.
C'est vrai.
Et les mecs sont plus sérieux, ils savent qu'ils vont manger du sable pendant quelques temps. Et donc, ça sélectionne déjà, nativement.
Ouais.
Et on voit des gens qui ont déjà des carrières intéressantes en train de travail, qui viennent, qui lancent un projet qui va toucher à de la fintech, complètement Web3 et décentralisé, et avec, je sais pas, 50 Goldman Sachs derrière eux. Par exemple, donc on voit des profils vraiment intéressants, plus seniors. Donc, au contraire, je pense que c'est un très bon moment pour investir. Parce que les valos sont pas repartis comme en plein bull run. Encore. Ça risque de. Mes entrepreneurs aussi sont rendus compte avec ce qui s'est passé dans les derniers mois que, voilà, faut savoir faire son deal et pas forcément optimiser la valo non plus. Donc, je pense que c'est intéressant. Cette année va être très, très intéressante. En tout cas, les 3-4 prochains mois.
Alors, tu disais que Nathaniel a dû revoir 800 deals. Combien de temps il passe par deal en général?
C'est une machine de guerre. Il s'est bien entouré, mais c'est une machine de guerre.
Est-ce qu'il a automatisé des process, j'imagine, quand même,
Ouais,
pour le
super.
créer?
Il a monté un super Airtable, en fait. Donc là, tu peux tout sélectionner. Tu vois sur quelle blockchain ils ont construit. Tu vois à quel stage ils sont, quelle géographie, l'expérience des founders. Donc tu peux aussi zoomer très facilement. C'est un bel
Et
outil.
alors? Pour venir d'ailleurs sur la Startup Competition de la Paris Blockchain Week, comment ça va être organisé? Est-ce qu'on peut le format, c'est-à-dire que tout le monde pitch et après...
Alors, donc il y avait les 800 qu'on a annoncé, je crois, les top 100 hier, aujourd'hui, je n'ai pas suivi, mais voilà, ça, en tout cas c'est fini. Les 100 sont sélectionnés. Il y en a 10 qui doivent être sélectionnés d'ici, je pense, à la semaine prochaine. Et là, c'est les VC qui viennent à la conférence, qui votent, qui vont voter pour passer de 100 à 10. Et les 10 viennent et pitchent en live lors de la conférence, le troisième jour, le 11 avril. Derrière, il y a en même temps de très beaux panels VC avec les plus beaux VC du marché qui seront là. Et on a le big happening pour les vainqueurs avec Tim Draper qui remet le prix on stage, sur main stage, le 11.
Ok, ouais, donc vous avez fait les choses en grand.
Ouais.
Top. Bah, Mickaël, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot, une dernière. Ouais, c'est un peu la partie carte blanche.
Non, bon, on espère tous vous voir et la semaine du 8 avril.
Bah, moi, je serai là. Yes. Merci beaucoup, Mickaël. Je te
Merci.
remercie.